Vous écoutez France Culture.
Réplique, Niki, histoire d'un chien, avec Claude Habib et Pierre Pachet. Les vivants sont captivés par les vivants. Il arrive néanmoins, grâce à la merveilleuse pratique de la réédition, que des défunts se glissent dans l'actualité littéraire. C'est le cas aujourd'hui de Tibor Derry. Ce grand écrivain hongrois, né en 1894 et mort en 1977, était complètement oublié. Il avait disparu de la circulation. On ne trouvait plus ses romans, même dans le rayon Europe centrale des meilleures librairies. Et voici que les éditions Circé publient, sans crier gare, Niki, l'histoire d'un chien. Ces 150 pages sont un véritable miracle. Dès les premières lignes, on est saisi par l'émotion et porté par l'intelligence. J'ai voulu mettre des mots sur ce saisissement. Pour cela, j'ai invité deux lecteurs qui sont parmi les meilleurs que je connaisse, Claude Habib et Pierre Pachet. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu cette histoire indissolublement humaine et canine, sentimentale et politique, je voudrais demander d'abord à Claude Habib de planter le décor.
Merci. C'est l'histoire d'un chien qui se fait adopter par une famille, un couple d'ailleurs. C'est des gens qui viennent de perdre leur fils, qui l'ont perdu il y a 5 ans. Ça commence en 48 et ils vivent...
Ils l'ont perdu à la guerre, c'est ça?
Il est mort à Voronège sur le front russe. Donc je suppose qu'il était du côté nazi puisqu'il était hongrois. Le fils est mort. Eux, c'est des gens de gauche. En 48, la Hongrie devient communiste et ils vivent une vie chiche. Ils sont en deuil. Ils n'ont pas la place de prendre un chien. Et pourtant, le chien, c'est une jeune chienne de 1 an avec sa grâce, avec ses bons, avec sa vitalité formidable. Simi, ça arrive à se faire aimer et se faire adopter. Et à partir de là, elle partage ce foyer. Et donc, elle va suivre la vie de cet ingénieur et sa femme. Il y a une cinquantaine d'années, c'est des gens au milieu de leur âge, pendant 5 ans. Donc, il va être muté à Budapest. Donc, la chienne va faire l'expérience de la ville, des trottoirs, d'un monde qui n'est plus la nature. Et puis, les choses vont tourner de plus en plus mal professionnellement et politiquement pour cet ingénieur qui va aller de poste mal fait pour lui, enfin, qui va perdre la confiance du parti et qui va avoir une vie de plus en plus difficile, impossible même professionnellement, jusqu'à être arrêté. Donc la chienne perd son maître et elle n'est plus confiée qu'à la femme, arrêtée sans raison. Il ne saura jamais pourquoi il a été arrêté. Donc l'arbitraire et la séparation, la misère de plus en plus grande. La femme est obligée de faire des ménages, mais elle garde quand même sa chienne jusqu'à... Bon, je voudrais dire aux auditeurs maintenant qu'il faut qu'ils ferment le poste et qu'ils aillent acheter ce livre qui vaut 7,50 €. Oui, mais je voudrais faire connaître ce livre et on va forcément le gâcher dans la conversation qui suit parce qu'on raconte la fin. Ce n'est pas un roman à suspense. On s'attend à ce que cette pauvre chienne meure, mais la manière dont elle meurt, tout ça, on va l'éventer dans la conversation et c'est vraiment dommage. Donc j'aimerais bien que les auditeurs ferment le poste et aillent l'acheter.
Ah ben voilà, c'est la première fois qu'on me fait un coup pareil dans cette émission. Mais bon, j'essaierai d'y survivre. Je crois quand même qu'il est bon d'éclairer ce livre et que cet éclairage... J'espère que cet éclairage ne gâchera pas la lecture. Mais précisément, Pierre Pachet, c'est une belle histoire en effet, mais pourquoi en faire tout un plat? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse s'arrêter à un roman pareil?
Pour reprendre ce que disait Claude Habib, il ne faut pas craindre de dévoiler la fin parce que l'écrivain lui-même la dévoile. Et sa façon de raconter consiste souvent à anticiper sur son récit, à mettre le lecteur dans la complicité. Mais ce livre qui reparaît après 50 ans, Moi, il me replonge dans l'atmosphère du milieu de la fin des années 50 et de cet événement bouleversant qui a été la révolution hongroise de 1956, événement absolument sidérant où l'Europe communiste a été ébranlée par un soulèvement à la fois populaire, national, ouvrier, démocratique. Et Tibor Derry, en tant qu'écrivain, membre du cercle Petőfi, qui joue un rôle très très important dans ce soulèvement, a été un des acteurs principaux de cette révolution d'octobre 56. Il était un de ceux qui ont demandé l'abolition de la censure. Ce roman est paru fin 55, donc dans une Hongrie encore stalinienne, mais où il était possible d'écrire ce roman qui, par de nombreux côtés, fait allusion très directement à l'actualité et en particulier à une des affaires qui ont marqué, qui ont symbolisé aussi l'oppression communiste en Hongrie, qui est le procès de László Rajk. Rajk n'est pas mentionné nominalement, mais il est bien question de lui. C'est le ministre des Affaires étrangères, vieux militant communiste, qui est arrêté en 48 et qui ensuite est exécuté. Et d'ailleurs, la révolution de 56 a été inauguré en quelque sorte par des funérailles nationales qui ont été faites à Rajk pour le réhabiliter. Donc ce sont toutes ces émotions d'un ébranlement si profond de l'emprise stalinienne sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est qui revient au premier plan dans un récit qui est absolument merveilleux par son art, par sa subtilité, par sa discrétion aussi. Parce que ça demande au lecteur une très grande attention. Par exemple, Claude Habib parlait de Voronej où est mort le fils. Eh bien, un moment, dans une promenade à la campagne où la chienne retrouve avec un si grand plaisir l'atmosphère de la campagne, le ciel évoque Voronej tout d'un coup. Et ça demande au lecteur cette attention très particulière dans ce texte si bref et si riche, si dense.
Il y a une passe-face dans cette nouvelle édition dans laquelle il nous est dit, et j'étais un peu surpris, une passe-face écrite par László Foldényi, j'espère ne pas mal prononcer, que les allusions politiques contenues dans Nikki ont pâli, tant mieux. Je ne pense pas qu'on puisse dire les choses ainsi. C'est en effet l'histoire d'un chien, une histoire extrêmement concrète, est absolument bouleversante, mais c'est aussi l'histoire d'un couple et il y a une correspondance constante entre ce qui arrive aux hommes et ce qui arrive aux chiens. Le mari, vous l'avez dit, Claude Habib, est arrêté sans raison. C'est vraiment l'abus de pouvoir. D'ailleurs, il y a une réflexion au début du livre sur l'abus de pouvoir dont le chien lui-même avait été victime de la part de son premier maître, colonel à la retraite de l'armée de Horthy. C'était Horthy, le régime fasciste, qui a sévi notamment pendant la guerre jusqu'au coup d'État des Croix Fléchées. Eh bien, de cet abus de pouvoir, à son tour, l'homme est victime. L'homme qui avait voulu participer à une révolution dont Horthy était justement le repoussoir. Et puis, je crois que les choses vont plus loin encore, car il ne s'agit pas simplement d'une dénonciation politique du stalinisme de Rákosi. C'est une réflexion presque ontologique sur la démesure totalitaire, la politisation intégrale de la vie, l'historicisation de la vie. Deux choses m'ont frappé. D'abord, vous avez parlé justement de l'attention que demandait ce récit avec des notations très discrètes. Un des leitmotivs, c'est les rues, les places, les usines qui changent de nom. La place Rudolf qui devient Marie Jansai. Les usines Gans Électricité qui deviennent les usines électriques Clément Gottwald, tout au long du livre, il y a ça. Et en même temps, c'est l'histoire d'un chien. Et donc, on veut bâtir l'homme nouveau en détruisant le passé. C'est d'ivresse constructiviste. Mais il n'y a pas de chien nouveau. Enfin, comment dire, il y a aussi, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'un lien très fort, immémorial, et qui résiste à l'histoire. Donc,
sauf que là, il est brûlé par l'histoire. Oui, je voudrais redescendre un peu de cet étage politique. Il est parfaitement là. C'est un livre porté par la Révolution. C'est un livre immensément courageux. Mais en effet, les notations politiques, on n'en a pas besoin. C'est transparent. Oui, bien sûr, c'est la Hongrie. Mais on n'a pas besoin de savoir quelque chose sur la Hongrie pour lire ce livre. Au contraire, c'est un livre qui donne envie d'en savoir plus sur la Hongrie. Je voulais citer ce texte sur l'abus de pouvoir, qui est très frappant. Elle arrive, la chienne, dans un couple où il n'y a pas d'abus de pouvoir. C'est des bonnes gens qui veulent construire le communisme, qui veulent un monde nouveau, mais qui sont indemnes de ce travers. L'abus de pouvoir, ce vice funeste de tous les rois, chefs, dictateurs, de tous les directeurs, chefs de service, secrétaires, de tous les bergers, vachers et porchers, de tous les chefs de famille, de tous les éducateurs, de tous les frères aînés, de tous les vieux, de tous les jeunes ayant charge d'âme, cette puanteur, cette maladie, ce foyer d'infection qui est le propre de l'homme et qui ne se développe chez aucun autre fauve sanguinaire, cette malédiction, ce blasphème, etc., était chose inconnue dans la maison Hangsa. Donc elle arrive dans une maison préservée de ce vice moral et qui va évidemment en être terriblement victime. C'est oui un livre où la politique est tout le temps présente. Et bon, il y a une chose qui est frappante, c'est que ce qui arrive à l'ingénieur Hangsa, c'est-à-dire de revenir dans son foyer après la mort de son chien, c'est ce qui va arriver, nous apprend la postface, à Tibor Derry lui-même, qui va être mis en prison après avoir écrit ce livre, et pas pour rien, ce livre est une violente critique de l'oppression communiste, va être mis en prison, avait lui-même un chien qui s'appelait Nicky, chien qui meurt avant son retour.
Entre la publication du livre et l'emprisonnement de Derry, il s'est passé précisément la révolution de 56, dans laquelle Derry a joué un rôle important. Et c'est après
un rôle important
l'invasion soviétique et la mise en place du régime Kadar, Kadar qui était un opposant qui a tourné kazakh et qui s'est mis au service des soviétiques, que Derry a été emprisonné, condamné à 7 ans de prison, dont il n'a fait qu'une partie. Sur le lien très étrange entre politique et très réussi entre politique et vie privée dans ce roman, le narrateur dit lui-même que dans ce récit, c'est la chienne, puisque c'est une chienne, qui est au premier plan, et le couple, ce sont des comparses en quelque sorte, ce sont des personnages secondaires. Et c'est très fin. Alors, en réalité, bien entendu, il y a une espèce de va-et-vient dans la tension, on est constamment amené à s'intéresser à la chienne, mais cette chienne, on ne la voit qu'à travers les yeux de ses maîtres. Et du coup, il y a un éclairage qui est donné sur ce couple, en effet, de bonne volonté. Plus que de bonne volonté, ils sont naïfs aussi. À l'égard de la situation politique, on peut dire qu'ils sont tout à fait naïfs. Monsieur Hangsa, l'ingénieur, ne comprend pas ce qui se passe.
Oui, parce que c'est un communiste enthousiaste.
Il a tellement de bonne volonté que ça le rend un tout petit peu idiot, ce qui n'empêche pas d'être sympathique. Mais cette naïveté merveilleuse est en un certain sens, la chienne est plus fine.
Non, la chienne, elle est enfermée dans le Hikatnek et elle peut pas faire ce que le communiste fait spontanément, c'est-à-dire que quand il est victime parce qu'il a été dénoncé par un ouvrier qui avait des accointances au parti, un ouvrier qui volait du matériel, donc lui, il le met dehors et il ne comprend pas le moment où il doit céder devant la corruption parce que le parti le lui demande. Donc il est rigide, il est moral et c'est lui qui paye, il va perdre sa place. Alors, au lieu de comprendre ce qui lui arrive, il se met en cause. Hein, c'est le problème communiste numéro un. Il se demande en quoi il n'a pas été un bon directeur d'usine. La chienne, elle ne peut pas se demander. Donc la chienne va souffrir de ce maître de plus en plus absent, de ce maître qui revient tard le soir, qui revient de mauvaise humeur, qui n'y arrive pas, et puis qui finalement disparaît. Elle va souffrir sans pouvoir se mettre en cause. C'est ça qui est ce mutisme du chien qui est au centre, ce mutisme de la souffrance pure qui est la force explosive de la critique de ce livre. Hein, l'exergue de Tacite, 15 ans, long laps de temps dans la vie d'un homme, ce long laps de temps, pour Nicky, c'est pas un laps de temps, c'est sa vie. La vie du chien est totalement gâchée et elle meurt.
Sa vie est gâchée, dites-vous. Alors, en même temps, ce qui est très beau, c'est que de temps en temps, nous sommes placés, nous voyons les choses du point de vue du chien. Il y a un côté, ce que savait Nicky dans ce livre. Et là, d'ailleurs, c'est le moment peut-être où notre compassion est la plus forte, la plus intense. Il y a un très beau passage sur la tristesse du chien. Les Hangsa habitent au premier, avec vue sur le pont Marguerite. Alors c'est quand même pour elle un véritable arrachement que de quitter la campagne. Et le livre est aussi cette méditation, même sur le sentiment de la nature, sur le lien avec la nature. C'est ce que je disais tout à l'heure, je cite ici Camus, « On ne vit pas que de lutte et de haine, il y a l'histoire et il y a autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres, la beauté naturelle. Bon. » Il y a l'histoire et il y a autre chose, il y a l'histoire et il y a Nikki. Et Nikki était chez elle, à la campagne, et eux aussi. Mais là, elle s'ennuie, son regard se perdait dans l'air qui se trouvait là, derrière la fenêtre, sans existence propre. Découragée, elle finissait par sauter de la chaise, bâillait et trottait vers son coin. Sa tête était vide comme l'air, car tout au long du jour, aucune expérience ne venait occuper son cerveau. Et il y a un autre passage, alors là, je trouve absolument déchirant. C'est ce moment après l'arrestation, où sa maîtresse, Madame Hangsa, est évidemment obligée de la quitter. Et c'est terrible, parce que elle ne comprend pas. Madame Hangsa lui dit « je reviens tout de suite », mais pour elle, ces mots, cette suite de mots, devient la mélopée de la solitude. Son ébattement ne diffère pas d'une séparation et l'autre, c'est toujours pour la vie, vous le dites. Vous l'avez dit, Claude Habib, elle est enfermée dans le Iketnon, qu'à un moment donné aussi, sa maîtresse apprend, après plus d'un an sans nouvelles, que son mari est en vie. Elle revient elle-même, elle veut communiquer la bonne nouvelle à la chienne, mais comment faire? Donc, elle se heurte toujours à cette incompréhension extrêmement douloureuse, et il y a quelque chose, justement, d'une compassion qui nous envahit pour cet animal enfermé dans l'animalité, comme si l'animalité était quelque part une malédiction, quoi. Il y a ces deux choses-là, une admiration pour la grâce du chien et une réflexion sur, malgré tout, la malédiction d'être un animal.
La malédiction dont il est question dès le début, qu'est-ce que l'homme aurait eu à lui pardonner, puisque de n'être pas né homme, évidemment, pour ce péché originel, le plus terrible que connaisse l'histoire du monde, les animaux ne trouvent miséricorde que lorsqu'ils achètent leur existence auprès du maître. Alors là, c'est le poème de La Fontaine que vous citiez, L'homme et la couleuvre. Mais il est beaucoup question de ce mutisme et il en est question dès le début. Quand Hangsa hésite à prendre la chienne, il n'a pas de place, il n'a pas d'amour à donner pour une sale bête collante. Il ne peut pas se permettre d'avoir un chien. Et puis il se méfie de la dictature féroce de l'amour, dit-il, et du mutisme. Aucune arme n'est efficace contre lui. Le mutisme, l'homme est incapable de se dégager de l'étreinte de l'amour et surtout, à tout cela s'ajoute que le mutisme d'une bête incapable de plaider sa cause est une arme bien plus percutante que les arguments les plus irrésistibles. Alors ça, je pense que tous les gens qui ont un chien ou qui ont un chat et qui voient ce mutisme de l'animal, ce mutisme aimant qui n'a pas d'argument, sont frappés par Nikki.
Bien pas cher.
Oui, enfin, je n'ai pas la même expérience que vous de l'intimité avec un chien, mais il y a deux choses qui me frappent dans la façon dont cette histoire est racontée. D'abord, c'est que le malheur du chien, le malheur qu'il frappe, est rendu intelligible à plusieurs reprises par une comparaison entre ce que la chienne éprouve et ce qu'éprouve un prisonnier. Donc c'est pas moi qui l'ajoute. Cette dimension politique est constamment présente. Et c'est assez fort parce que ça n'est néanmoins pas encombrant. C'est-à-dire, elle subit, cette chienne, ce que elle, en imaginant ce qu'elle subit, on peut comprendre ce qu'imagine un prisonnier qui ne sait pas quand il sera libéré, qui ne sait pas pourquoi il est condamné, qui ne sait pas à quoi il est condamné. Cette référence est constante, elle est extrêmement discrète. Et du coup, on est obligé de constater quelque chose qui est tout à fait remarquable dans l'art de Tibor Derry à ce moment-là, c'est que c'est un livre qui, malgré son pathétique, le tragique des événements, puisqu'il s'agit de souffrance et de mort sans espoir, est un livre plein d'humour et d'ironie. Et l'humour et l'ironie existent non seulement chez le narrateur, mais il existe aussi chez cette chienne, qui est pleine d'esprit, on peut dire, qui dans sa vitalité, dans ses bonds, essaye, elle aussi, de prendre des choses avec une certaine légèreté. Mais là, c'est la grâce particulière de Tibor Derry dans ce livre. Je ne sais pas si dans ses autres œuvres, il a réussi cet alliage. Mais ici, c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que les choses ne sont dites... Par exemple, la dénonciation de ce que sont les hommes d'État, les responsables, n'est faite qu'avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'esprit, et jamais d'une façon frontale. Ce sont des réflexions comme incidentes qui nous permettent de mesurer ce qu'est la brutalité de la vie telle qu'elle est instaurée par ce régime appuyé sur une bonne volonté d'acier.
Il me semble que vous dites que Nicky n'est jamais un symbole, n'est jamais une allégorie critique du régime. Ça, elle reste avec une finesse parfaite, un animal précisément décrit. Et je crois que dans ses autres œuvres, Derry, enfin pour le peu que j'en ai lu, a le sens aigu de l'incongruité, de l'imperfection. Mais je veux dire, écoutez, je vous cite une phrase d'un autre livre parce que je la trouve très pachétique, Pierre. Il parle...
Pachétique, voilà un bel adjectif. Vous allez rentrer avec ça, Pierre Perchet.
Nous voyons quelquefois, situation absurde, une veuve qui ne désirait qu'une chose, suivre son mari dans la tombe, piquer 3 jours plus tard une véritable crise de fureur à cause d'un mouchoir mal repassé ou de la disparition d'une fourchette en argent. Bon, ça, c'est un livre des années 30, mais il a déjà ce sens de l'inégalité. Les choses sont jamais comme on s'y attend. Par exemple, quand on colle un colocataire à la pauvre Madame Anxa, qui... Son mari n'est plus là, elle est obligée de faire les ménages, elle vit chichement, et paf, l'appartement communautaire, cette plaie des régimes communistes. Bon, ben il dit, ça se passa très bien, et contrairement à ce qu'on pourrait craindre, ben c'est un ouvrier vraiment gentil qui vient habiter près d'elle et qui est attentionné. C'est jamais le poncif, c'est jamais la porte cochère.
Et alors, cet épisode du colocataire est particulièrement fort, puisqu'en effet, c'est un homme extrêmement gentil, qui établit un lien avec la chienne orpheline de son maître, qui est un peu calmée par cette présence, parce qu'elle a quelqu'un qu'elle peut attendre. Et puis voici qu'un jour, ce colocataire rentre ivre-mort chez lui. La chienne l'entend arriver, c'est la nuit, elle est toute excitée, elle va vers lui, un coup mat. Un long hurlement, il a donné un coup de pied à la chienne. Et le lendemain, sa femme vient s'excuser auprès de Madame Anxa. Depuis 10 ans, c'était bien la première fois qu'il s'enivrait, et encore, il n'avait pas bu parce qu'il aimait lever le coude, mais parce qu'on l'avait désigné comme propagandiste à l'occasion de la campagne de souscription du 3e emprunt de la paix. Il avait pour mission... de convaincre les gens de la montée du niveau de vie. Au summum de l'idéocratie stalinienne, il faut convaincre les gens qui vont de plus en plus mal, qu'ils vont de mieux en mieux, et il n'en peut plus, il s'évade dans la boisson, et voilà ce que cela donne. Mais en effet, vous avez raison, on aurait pu s'attendre à un voisin désagréable, et il trompe l'attente, comme c'est souvent le cas dans ce roman. Pierre Pachet, vous avez quelque
chose? Oui, parce qu'il y a, enfin, dans cette société soumise au pouvoir des bureaucrates qui sont eux-mêmes soumis aux décisions de Staline et au partage de l'Europe tel qu'il a été conclu à Yalta, il y a une résistance de la société qui est la même résistance que celle qu'oppose la chienne spontanément et sans le savoir. Cette résistance qui se marque par la solidarité des anciens mineurs qui viennent en aide à Madame Anxa lorsque son mari est arrêté, la solidarité du colocataire qui en effet voit, ne se détourne pas d'elle, alors ou la solidarité qui finit ce qui annonce les événements de 56, lorsque la chienne manque d'être arrêtée par des gens qui les services municipaux de la Fourrière qui veulent la reprendre, eh bien il y a une espèce d'insurrection spontanée dans la rue parce que une vieille dame est poursuivie avec sa chienne.
Donc il y a les deux choses en même temps, parce que bien sûr, ce fox terrier, c'est un animal inutile, est-il dit dès le début, et il y a quelque chose de protestataire justement à vouloir entretenir une relation avec un animal inutile au moment de cette grande mobilisation pour l'utilité du pays. Mais
et il y a cette travailleuse voilà, au volant d'un camion qui crie à Madame Anxa, quand elle la voit avec la chienne qu'elle promène sur le quai du Danube, qu'elle ferait mieux de promener son petit-fils que son chien. Ce qui est une cruauté atroce, puisque c'est une femme qui a perdu son fils, et quand vous perdez votre fils, vous perdez vos petits-enfants. Et c'est l'ignominie du peuple quand il est sûr de son bon droit. Il y a une self-righteousness, puisqu'on n'a pas le mot en français, la certitude de son droit, qui est aussi dégoûtante quand elle parle du moralisme puritain que quand elle parle du peuple qui, voyant cette pauvre Nikki, qui est un chien mal nourri, qui est un pauvre chien, crie à Madame Anxa, cette bourgeoise qui se permet d'avoir un chien, nous autres on bouffe des briques, tandis que eux, ils ont toujours de quoi gaver leur cabot. Bon, alors ces remarques populaires qu'elle essuie à Budapest, alors qu'elle est cette femme sans homme qui fait les ménages, c'est l'autre face du peuple. D'ailleurs, le peuple hongrois est terriblement divisé. Dans un livre postérieur, il fera dire Tibor Déré à un de ses personnages, j'ai vu la moitié du pays confier à ma plume le salut de son âme. Ça, c'est le moment Nikki. Mais c'est que la moitié du pays. Nous avons été partagés sous Vichy et entre collaborateurs et France résistante. On voit ce que ça donne même aujourd'hui dans la mémoire. Et ça a duré 4 ans. La Hongrie, ça, c'est plus de 40 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire un clivage entre collabos et résistants qui dure 40 ans?
Je voudrais qu'on revienne très vite sur ce clivage et sur la place de Tibor Déré, parce qu'il y a eu un après Nikki et un après 56. Un mot quand même sur cette chienne encore. Parce que vous l'avez dit, Claude Abîme, c'est pas une allégorie. C'est un animal. C'est un animal extrêmement concret. C'est un personnage romanesque à part entière. Un grand personnage. Et il y a quelque chose dans sa vitalité d'extraordinaire, mais aussi dans son amour. Son amour pour ses maîtres, l'attente de son maître. Et pour illustrer cet amour, je voudrais vous lire la citation d'un autre livre, un très beau livre de Marlène Haushofer, Le mur invisible. Une femme survit à une catastrophe planétaire, peut-être une bombe, etc. Elle est là avec des animaux, et notamment un chien qui s'appelle Lynx. Je ne crois pas que les animaux sauvages puissent être heureux ou même joyeux quand ils sont adultes. C'est la vie avec les hommes qui a dû faire naître cette faculté chez les chiens. J'aimerais savoir pourquoi nous agissons sur eux comme une drogue. C'est peut-être le chien qui est responsable de la folie des grandeurs de l'homme. Même à moi, il m'est arrivé de penser que je devais avoir quelque chose de particulier quand je voyais Lynx défaillir de joie en me regardant. Mais je n'avais rien d'exceptionnel, bien sûr. Lynx était tout simplement fou des hommes, comme tous les chiens. Alors, ce chien-là n'est pas fou de tous les hommes, il est fou de ses maîtres, pas seulement de ses maîtres, parce qu'il y a aussi une scène...
Stevenson dit que les chiens sont polythéistes et qui vivent au milieu de l'Olympe des hommes armés de fouets.
Oui, et il y a cette scène absolument extraordinaire, justement, ce rapport au peuple, l'ami de M. Anxa, c'est lui-même un mineur, laconique, force de la nature, etc., qui ne dit pas un mot, mais qui est toujours là pour soutenir le couple et Madame Anxa lorsqu'elle est seule. Et la première fois qu'il vient, il regarde la chienne et il fait bouger ses oreilles, de haut en bas et de droite à gauche. Et la chienne est complètement affolée par ce jeu, parce que justement, elle a observé les hommes, et les hommes ne font pas ça. Donc elle hurle, elle se sauve, et à plusieurs reprises, il recommence, jusqu'au moment où la chienne d'ailleurs s'y habitue, et y trouve un certain plaisir. Mais il y a quelque chose de cette folie-là, Barthes dit des chiens que ce sont des boules d'affect. Mais en effet, ils ne savent pas feindre, dit Tibordéry. Il n'y a pas de distance à soi du chien.
Ça,
mais cette sentimentalité ne cesse de jaillir dans le livre. Pierre Pachet, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, enfin, elle est, si, si, il y a sentimentalité qui est en même temps tenue à distance. C'est-à-dire, les chiens, enfin, c'est une remarque qu'avait faite une fois Solzhenitsyn, il disait, ce qui est beau avec les chiens, c'est que leur fidélité ne peut pas être adultérée par une emprise idéologique. Si un chien vous est fidèle, il vous reste fidèle. Tandis que votre femme, votre fils, votre père peut vous trahir. Le chien reste fidèle. Mais en même temps, la chienne n'est pas inapte à la dissimulation. Elle peut très bien, lorsqu'elle s'est assise pendant la journée sur le fauteuil où elle ne devrait pas se mettre, faire semblant de ne pas y avoir été. Donc, elle n'est pas non plus innocente. C'est ça qui est beau, c'est ce qui nous la rend proche. C'est ce qui fait qu'on peut, on peut s'attacher à elle. Donc, je veux pas, il ne faut pas l'idéaliser, la beauté de ce personnage. D'ailleurs, c'est vraiment un personnage, et en un sens, l'expression est employée par le narrateur, c'est la biographie d'un chien.
C'est la biographie d'un chien.
Et ce chien mérite une biographie. C'est une biographie douloureuse, puisque sa courte vie qui correspond à une vie humaine qui se termine dans une sorte de désespoir, ça m'a fait penser d'ailleurs à une autre biographie de chien, vous citez d'autres bouquins, c'est un livre qui vient de paraître, c'est Flush, la biographie d'un chien de Virginia Woolf. Alors ça n'a pas le caractère aussi dramatique que cela, c'est beaucoup plus touchant, ça vient de paraître au Bruit du Temps, aux éditions Le Bruit du Temps, mais c'est un livre aussi qui est la biographie d'un chien. Évidemment, à travers la biographie de ce chien, c'est la vie d'Elizabeth Barrett Browning, etc. Mais ce chien mérite une biographie. Et cette oscillation entre biographie d'un chien et biographie d'un couple et évocation de la Hongrie stalinienne est quelque chose de parfaitement réussi. Il y a chez Tibordéry la maîtrise parfaite de son art à ce moment-là, qui est associée à cet étonnant courage dont il a fait preuve dans ces années-là.
Je voudrais juste dans les détails. Enfin, j'ai un ami auquel j'ai recommandé ce livre et qui est revenu en me disant j'ai envie d'avoir un chien. Je crois que c'est la meilleure critique qu'on puisse faire de ce livre. Mais dans les notations sur l'animal, en particulier l'animal quand il arrive en ville, il y a une acuité qui fait penser qui me fait penser à Tolstoï. Par exemple, quand il regarde le chien aboie après tous les véhicules, même les charrettes, ça il envoyait à la campagne, avec deux jappements distincts, l'un pour la charrette et l'autre pour le cheval. Ces deux jappements distincts, là c'est vraiment une finesse auditive, aboyant après tout ce qu'elle craignait, comme les généraux de Shakespeare tonnant avant la bataille. Bon, c'est cette connaissance par le flair aussi, cette être particulier qu'est le chien et qui vit par, non pas les yeux, elle est myope, mais par le nez. Ce qui fait que quand son maître revient et qu'il est complètement écrasé par sa journée et qu'il est de mauvaise humeur, elle court vers lui, puis s'apercevant de son état, elle repart dans son panier comme si la mauvaise humeur sentait mauvais. Donc il y a beaucoup de moments comme ça où on est mis à la place de l'animal d'une manière saisissante. Et en particulier sur le jeu aussi. Quand on lui donne un ballon qui doit remplacer la liberté, qui doit remplacer la chasse, qui doit remplacer les espaces verts, elle est d'une joie folle, elle le poursuit dans la maison, elle le met en pièces et elle joue encore avec les moindres pièces du ballon quand elle l'a explosé. Mais le jeu est une idée fixe. Le jeu est comme un alcool qui étourdit et ne désaltère pas. Là il y a vraiment une saisie de l'animal que je trouve d'une finesse rare.
Oui, alors j'ajoute un autre tout petit exemple. C'est les promenades du chien. Évidemment, les chiens vont toujours vers les arbres. Et voilà ce que nous dit Tibordéry. Le bas de chacun de ces troncs d'arbres lui communiquait, sous une forme condensée, comme un dictionnaire de poche, des renseignements plus abondant et plus varié sur la vie privée des chiens du quartier que toute la grande rue de Xobanka. Je trouve que, oui, l'ensemble des arbres de l'avenue Pozzoni valait pour Niki une année d'un journal quotidien relié en album. Ce journal quotidien et ce dictionnaire de poche, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, vous avez cité Virginia Woolf, je connais une autre biographie de chien à laquelle je fais brièvement référence. J'en ai déjà parlé ici, c'est La vie du chien Orla de Renaud Camus, où d'ailleurs certaines notations rejoignent celles de Tibordéry sur la douleur des chiens de ne pas comprendre, et notre douleur à nous, vis-à-vis d'eux, qui est de ne pouvoir rien leur expliquer, du peu que nous croyons avoir compris, du peu qui les soulagerait un peu, qui sait.
La vie du chien en latin, très beau livre. Mais remarquez que la plupart de ces livres, je ne connais pas celui de Virginia Woolf, mais sauf le Thomas Mann, Maître et chien, la plupart sont des tombeaux de chiens, hein, sont des livres écrits à partir de la mort de l'animal, comme si nous ne supportions pas, dans l'adoration des chiens qui nous prennent pour des dieux, bien notre impuissance. Les chiens, ils vivent moins que nous, et donc nous avons leur adoration et nous les voyons mourir, et il y a quelque chose d'odieux dans ce rapport. Les chats ne posent pas ce problème, parce que les chats ne nous idéalisent pas de cette façon.
Les chats ne sont pas fous de nous. Mais je voudrais, avant d'en venir à la biographie politique de Tibor Derry, m'arrêter une seconde à la fin du livre. Oui, nous la divulguons, mais ça n'empêchera pas, je l'espère, les auditeurs de se précipiter dans les librairies. L'ingénieur rentre chez lui. Il est libéré de prison. Et il arrive trop tard. La chienne est sous l'armoire. Et on pense qu'elle est morte puisqu'elle n'est pas sortie de l'armoire pour l'accueillir. L'ingénieur, qui a passé par bien des choses au cours de ces 5 années et supporté avec une vaillance rare toutes sortes d'humiliations physiques et morales, vient de perdre le contrôle de lui-même dans son émotion de se retrouver chez lui. En apprenant que la chienne était morte, il a éclaté en sanglots. Et j'ai pensé à ce récit qui a traversé les temps, puisqu'il est d'abord fait par Hérodote, puis repris par Montaigne, et enfin par Benjamin, le roi d'Égypte, fait prisonnier par le roi des Perses, et celui-ci résolu d'humilier le captif, il donne alors de le placer sur le chemin qui devait suivre le cortège triomphal des Perses. Et il voit passer sa fille, il ne dit rien, il voit passer son fils, qu'on emmène au supplice avec le cortège, il ne bouge pas davantage. Mais lorsqu'il reconnut ensuite dans les rangs des prisonniers un de ses serviteurs, un vieillard misérable, alors il se frappa la tête avec les poings et présenta tous les signes de la plus profonde désolation. Et l'interprétation de Montaigne, ce fut qu'étant d'ailleurs plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrières de la patience. Il y a un peu quelque chose de cet ordre. Il a tout supporté et il ne supporte pas cette mort-là de ce chien.
Il faut dire que c'est la structure d'un mélo. Ça n'a rien d'un mélo. Ça a une âpreté telle qu'on ne peut vraiment pas dire que cette fin est mélodramatique. Mais ce que ça a de structurellement mélo, c'est le trop tard. Il revient juste après l'agonie de la chienne sous l'armoire. Donc il y a quelque chose de particulièrement pathétique. Ce que fait observer Derry, c'est que ont été piétinées cette relation peut-être humble de l'homme au chien et de la chienne à l'homme, mais que dans ce cas, ce qui est compromis aussi, c'est une liberté de l'animal. La liberté si paradoxale, mais là je trouve qu'il y a une intelligence très grande, qui signifiait le droit de vivre auprès de l'ingénieur, le maître qu'elle s'était donné de son propre gré. Donc il y a la possibilité d'une liberté dans la vassalité, la liberté de se donner, la liberté de ne plus être libre, qui a été celle de la chienne. Et ça, Derry le fait.
Alors maintenant, je voudrais qu'on en vienne peut-être à justement l'évolution de Tibor Derry. J'en ai appris plus long sur lui grâce à un article qui nous a été envoyé à Claude Habib et à moi par le grand traducteur qui est Georges Cassaille, un article d'Alexandre Croze, donc sur Tibor Derry. Et j'ai appris, et c'est une histoire terrible, que Tibor Derry a été donc condamné à 9 ans de prison. Il a été libéré au bout de 4 ans et il a passé des compromis avec le régime Kadar, la baraque la plus gaie du camp socialiste, le socialisme du goulash, comme on disait. Compromis et peut-être compromission, en tout cas, arrivé à Vienne, puisqu'il à un moment donné, il a été autorisé de sortir. Lui qui était le porte-parole de la révolte des écrivains devenait, sinon un porte-parole du régime, du moins un écrivain présentable par les socialistes. Et il dit ceci: je sais que ce n'est pas votre intérêt pour mon activité littéraire, mais vos opinions politiques qui vous ont amené ici, des gens qui sont allés à sa conférence à Vienne, mais il est plus instructif de me lire que de discuter avec moi. à l'heure actuelle, je peux écrire librement, à la condition de ne rien écrire contre le socialisme. Moi, je suis socialiste et j'assume cette restriction. De toute façon, la politique et la vision du monde, ce n'est pas la même chose. Il a été amené à assumer cette restriction jusqu'à réécrire certains de ses textes, comme le lui demandait la censure, jusqu'à refuser de se prononcer contre l'invasion de la Tchécoslovaquie en 68, pour la charte 77. Et donc,
rien dire pour Sakharov, rien dire. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui s'est écrasé.
Ni pour Solzhenitsyn, ce qui a déçu nombre d'intellectuels en Hongrie, et ce qui est peut-être pour quelque chose dans l'oubli dans lequel
Évidemment.
Il était tombé, puisque en 55, des comités Tiborderis étaient formés en France sous la présidence de Jean Cassou, avec Albert Camus, avec François Mauriac, avec Roger Martin Dugard. Alors, que penser d'une telle évolution? Pierre Bachet.
Moi, j'en pense rien. Enfin, vous imaginez que, oui, je pourrais pas me permettre.
Non, mais c'est pas du tout ce que je vous demande.
Mais c'est une grande tristesse parce que, enfin, m'incite à penser, à considérer, c'est est-ce que pour un écrivain, l'essentiel, c'est de continuer à publier? Et il se trouve qu'en effet, ayant subi tout ce qu'il avait subi, Tiborderis a considéré que l'essentiel pour lui, c'était de rester un écrivain, d'avoir un public, d'être publié. Et en effet, j'ai lu moi aussi cet article de Croze, il a non seulement passé des compromis, mais il a entretenu des relations finalement assez étroites avec un des dirigeants de la censure qui était exercée à ce moment-là. Et en effet, il s'est déconsidéré tout en restant un écrivain. Je ne crois pas que ses derniers livres soient des mauvais livres, loin de là, mais il n'a pas été à la hauteur de la posture, l'attitude héroïque qu'il avait eue auparavant. Il a été en quelque sorte enchaîné à cette tâche d'écrivain à un moment où il avait perdu espoir. Parce que ce qu'il faut voir dans la période de temps que rappelle l'épigraphe de Tacite qui est au début du livre, c'est que 1956, la révolution hongroise, laissait penser, après les émeutes de Berlin en 53, que le règne du communisme sur l'Europe allait se terminer. Or, il ne s'est terminé qu'en 1989, avec Gorbatchev. Donc, il s'est passé ensuite 40 ans, plus de 40 ans. 40 ans, c'est très très long, et que Tiborderis ait renoncé, je le comprends, c'est une grande tristesse, mais ça me le rend proche aussi à certains égards, parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, 40 ans dans la vie d'un homme, c'est énorme. Et
il a 62 ans en 56. Quand il fait ce livre héroïque à certains égards, Kenicki, ce livre qui attaque tellement ce régime d'oppression et d'absence de liberté, c'est un homme de 62 ans. Il a déjà été en exil après le gouvernement Belakoun auquel il a participé en 1920. Donc c'est un homme qui a mangé le pain amer de l'exil, qui a été à l'étranger. C'est un homme qui a été mis en prison aussi sous Horvat. En 39,
sous Horthy
en 39, pour je crois sa traduction du retour du RSS de Gide, donc de la prison il en avait déjà fait, de l'exil il en avait déjà fait, un homme de 62 ans qui reprend la prison, ça devait pas être des prisons gays, pour 3 ans. Il a été écrasé. Qu'est-ce que le régime lui donne comme faveur? C'est atroce quand on lit le texte de Anthony Krause. Par exemple, le droit qu'on ne confisque pas, c'est bien à l'étranger. Qu'est-ce que c'est bien à l'étranger? C'est l'argent de ses droits d'auteur en Suisse.
Oui.
Donc, on donne comme faveur le fait qu'il ait ses biens. C'est épouvantable. Donc, il s'est écrasé ou il a été écrasé, comme l'ingénieur Anxa. Et là-dessus, bien sûr que ça explique son destin. Pour le public mondial, le grand auteur hongrois, c'est Sándor Márai. Sándor Márai, c'est très bien. Enfin, Derry a une autre stature que Sándor Márai. Ça me paraît évident quand on lit que il n'y a pas photo, comme on dit, au tiercé.
Bon. Moi, je suis très heureux si nous pouvons contribuer à la redécouverte de Tiborderis, mais les confessions d'un bourgeois de Sándor Márai ou les métamorphoses d'un mariage, même les braises, sont quand même des livres qui font parfois penser à Stefan Zweig. Et c'est un écrivain de très bonne facture, malgré tout.
Non, mais c'est de très bonne facture, mais, bien sûr. Mais la phrase inachevée, ce livre qu'on ne trouve plus, ça fait partie des chefs-d'œuvre européens. C'est un grand livre. Mais bien sûr.
Il était publié chez Albin Michel, je crois.
C'est un livre qui fait penser à Zola, parce que la représentation de la classe ouvrière y est insistante, mais qui fait penser à Proust. Et il y a cette grève de Proust et de Zola, tout à fait improbable. Tibor Derry l'a fait. C'est un très grand auteur européen. Il est au maximum de son art dans Nikki.
Peut-être ça serait l'occasion de dire que justement la littérature hongroise est une des grandes littératures de l'Europe.
Bien sûr.
Parce que vous avez cité Sándor Márai, mais il y a parmi les écrivains contemporains, il y a Péter Esterházy, il y a Péter Nádás, qui est à mon avis un très très grand écrivain, un futur Nobel. Et la Hongrie est un pays très très étrange dans l'Europe, qui a non seulement donné le signal de ça en 56 de la décomposition du communisme avec 40 ans d'avance, mais qui est aussi un pays qui a fourni au monde un très très grand nombre de génie, de personnages tout à fait atypiques.
Donc, il y a une détresse hongroise et un génie hongrois.
Il y a un humour hongrois qui est très particulier aussi. Il y a une inventivité hongroise. Il y a quelque chose d'atypique.
Je voudrais parler de la noblesse et de la décence. C'est peut-être idiot, mais le petit ouvrier à lunettes qui habite à côté de Madame Anxa, il fait venir un vétérinaire. Il dit que c'est un de ses amis, qu'il ne sera pas question de payer, qu'il passe là par hasard. Et donc, il ment pour ne pas la gêner. Cet ensemble d'essence, de ne pas dire l'affection, ne pas dire ce qu'on fait pour l'autre, me paraît très hongrois. Je sais pas pourquoi, mais je les retrouve.
Oui, mais en même temps, c'est français. Excusez-moi, mais parce que vous avez dit Proust, tout ça. Il y a un écrivain français à qui Derry me fait penser en ce récit, c'est Anatole France. Je vais en profiter pour réhabiliter Anatole France qui était tellement écrabouillé par les surréalistes.
Oui, ça c'est la grande injustice des surréalistes.
Anatole France est un très grand écrivain.
Et les Dieux en soi, c'est un livre
très extraordinaire.
Très grand écrivain,
qui a beaucoup d'esprit, qui a beaucoup d'humour, qui a un grand sens politique, qui a une grande finesse. Et là, je trouve qu'il y a un aspect Anatole France dans Nikki.
Mais qui n'a pas la touche descriptive de Derry.
Oui.
Derry parle par exemple des ombres sur la neige en disant qu'elles sont comme de la mousseline et que les ombres en hiver sont moins denses que les ombres en été. Peut-être chez Colette, mais pas chez Anatole France.
Plutôt chez Colette, en effet. Mais on peut dire aussi que cette révolte hongroise politique a été aussi et simultanément un grand mouvement culturel, puisque tout est parti en 56 de ce cercle pétophile du nom du grand poète hongrois du 19e siècle. Et cet enchevêtrement de la politique et de la culture, c'est aussi une des grandes contributions de l'Europe centrale. En France, on raisonnait plutôt en termes d'engagement, c'est-à-dire il s'agissait de mettre la culture au service de la Révolution, avec une certaine culpabilité des intellectuels. Et en Hongrie, les choses ne se sont pas passées de cette façon. Ce sont les écrivains qui ont été les fers de lance de ce mouvement, et le printemps de Prague, comme l'a montré Kundera, a été aussi la résultante d'un grand mouvement de libéralisation de la culture, porté par la culture elle-même d'ailleurs, qui a commencé au début des années 60 à Prague. Donc ça, c'est aussi...
Oui, ça me paraît très juste. C'est très particulier que à Budapest, enfin en Hongrie, et à certains égards aussi en Pologne, le mouvement des intellectuels, des écrivains, des artistes, des cinéastes, est allé de pair avec une révolte qui était une révolte purement ouvrière, avec l'organisation des conseils d'usine. C'est tout à fait singulier.
Bien. Singularité importante. Nous terminons là-dessus. Merci beaucoup, Claude Habib. Merci, Pierre Pachet. Je rappelle donc le titre du livre que nous aurons encouragé, je l'espère, à lire. Tibor Derry, Nikki, l'histoire d'un chien. Il est publié aux éditions Circé. J'annonce aussi la publication dans quelques semaines, fin février, du prochain livre de Pierre Pachet, Sans amour,
aux éditions de Noël. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Que peut la politique ?». Mes invités seront Alain Juppé et Michel Rocard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Didier Lagarde, à la technique Clément Daté, dans un instant Jean-Noël Jeannonet.